France Musique.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver.
Escapade, Martin Pennet, France Musique.
Dans mon jardin d'hiver.
La chanson, c'est l'art de marier les mots et les notes, mais aussi de les interpréter. Nourri de jazz, Henri Salvador est passé maître dans l'art de jouer avec les sonorités. Dans cette deuxième émission, nous allons nous introduire dans l'atelier de l'artiste, tenter de comprendre son travail de compositeur et de chanteur, tout comme ses rapports avec les auteurs qui ont signé les textes de ses chansons. Nous verrons qu'ils sont divers, à l'image de Salvador, qui passe d'un genre à l'autre avec une aisance déconcertante. Que ce soit pour les musiques antillaises, latino-américaines ou pour le jazz, il entend les acclimater à la culture française. Une ligne qu'il défendra encore en 1989 au micro de Jean-Louis Foulquier dans l'émission Pollen sur France Inter.
Moi je ne fais que le jazz français, c'est-à-dire que je m'exprime en langue française. Parce que je trouve qu'on est arrivé à un niveau où on peut s'exprimer aussi bien que les Américains. Depuis assez longtemps, les gens disent toujours que la langue française n'est pas une langue qui rythmique. Eh ben, ce n'est pas vrai. Parce qu'en fin de compte, je vous assure que depuis que moi je chante, je peux aussi bien swinguer des paroles françaises que comme les Américains. Seulement, il faut savoir le faire. Et dernièrement, j'ai découvert une chanteuse qui sait faire swinguer la langue française. Elle s'appelle Morane. Et elle, c'est d'une facilité, d'une aisance. Et voilà l'exemple. Parce que faut pas dire que la chanson française ne swing pas. Ce n'est pas vrai. C'est une langue qui est très près du jazz. Et moi, au départ, je suis un musicien de jazz, hein. Au départ, je croyais que c'était seulement l'argot qui swingait. Eh bien, pas du tout. Si on sait vraiment l'interpréter dans le style, la langue française, mais aussi belle qu'elle soit, le plus beau poème, on peut le swinguer, on peut lui donner du rythme, et puisqu'il y a une cadence, puisqu'il y a une poésie, ça chante déjà. Donc on n'a pas besoin de... Si on a vraiment le talent pour le faire, eh bien, ça explose.
C'est beau de faire un show sur un bateau, mais quel boulot!
Il y a les décors et les costumes, et les pas de danse qu'il faut régler. Il y a les chanteurs comme de coutume, qui ont un rhume et sont enroués.
C'est beau de faire un show sur un bateau, mais quel boulot!
On a toujours peur que ça ne marche pas, et chaque fois on a le cœur qui bat. Mais l'on se dit quand on entend les bravos,
c'est beau de faire un show. Sur un bateau au bord de l'eau,
nous allons faire de notre mieux pour vous plaire et pour vous faire sourire, vous distraire. Si ça vous a plu, alors criez bravo.
C'est beau de faire un show.
C'est beau de faire un show, adaptation signée par Bernard Michel du célèbre standard composé en 1946 par Irving Berlin, There is no business like show business, tiré de la comédie musicale Annie Get Your Gun. Originaire des Antilles mais arrivé à Paris avec ses parents à l'âge de 7 ans, le jeune Henri Salvador s'est formé à la musique en autodidacte. D'abord seul à la guitare, puis au contact des musiciens de cabaret, qu'il s'agisse des manouches comme Django Reinhardt ou des jazzmen américains installés à Paris durant les années 30. Henri n'a pas suivi de formation musicale théorique, mais il a un don certain pour la composition. Sa méthode de travail est assez empirique et doit beaucoup à l'apparition du magnétophone, appareil qu'il s'est d'ailleurs mis à collectionner. Salvador a donc un rapport à la musique plus instinctif qu'intellectuel, comme il l'a confié en 2000 à Gaël Le Gallic pour l'émission de France Musique « Mémoire retrouvée ».
Quand je compose, je ne connais pas la musique, mais j'entends, j'ai la chance d'entendre.
Mais comment l'écrivez-vous ?
Eh bien, je le mets sur le magnétophone. Et après, c'est un pianiste qui relève mes mélodies. Mais j'ai eu des circonstances, parce que j'écrivais des sketchs aussi. Et il est arrivé une chose, c'est qu'un jour, j'avais fait un sketch sur le rire. Parce que je m'étais aperçu, dans le métro, un copain m'avait raconté une histoire. Le métro était plein, et je me suis mis à rire. Et quand je me suis mis à rire, tout le métro riait. Alors je me suis dit, tiens, si mon rire fait rire, je vais faire un sketch là-dessus. Alors j'ai enregistré mon rire sur un disque, et je l'ai essayé une fois comme ça sur scène. J'ai dit, mesdames et messieurs, si vous avez votre permission, nous allons m'écouter rire. Et j'ai mis en marche le truc, et moi, de m'écouter rire, ça me faisait rire, et ça a fait rire quelqu'un dans la salle qui a contaminé le reste, et ça a fait un succès. Mais j'aurais pu prendre un beat terrible hein, si j'avais pas fait attention.
Alors, imaginez-vous que l'autre jour, j'ai ri. Et après avoir ri, j'ai constaté que les gens m'ayant entendu rire, ont ri de m'avoir entendu rire. Alors je me suis dit, c'est très simple, il est ridicule que je perde mon temps à faire des sketchs pour essayer de faire rire, je n'ai qu'à rire. Évidemment, ce serait trop fatigant de rire comme ça tous les soirs, surtout fainéant comme je suis. Alors j'ai enregistré mon rire sur un disque, et avec votre permission, nous allons m'écouter rire en voiture. C'est moi, ça. Tu parles d'un travail, il y a pour 3 minutes. C'est pas croyable.
Ah, le rire de Salvador, ou plutôt les rires de Salvador, car c'est un vrai festival de rire qu'il nous propose. S'il a eu de lointains précurseurs, comme Constantin le Rieur dans les années 1910, il faut reconnaître que ce genre de numéro est très typique de sa personnalité d'artiste. Pour déposer ce sketch à la SACEM, il a même fallu faire appel à un prix de Rome qui est parvenu à relever note à note toutes les variations de ses rires. Il faut vraiment se pincer pour le croire. Mais revenons à la chanson et à ses mélodies. Avant l'usage du magnétophone, il y a l'inspiration musicale et les circonstances qui la favorisent. Au début de sa carrière, en avril 1951, Salvador répond de bonne grâce à cette sempiternelle question.
Mais dites-moi Henri Salvador, où, quand et comment composez-vous vos chansons ? Comment vous vient le thème musical ?
Eh bien, ça dépend. Des fois, c'est quand je suis au théâtre, vous savez, à l'entracte, comme ça, je reste dans ma loge, je prends la guitare. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai composé ma Doudou. C'était dans la loge de l'Alhambra. À l'ABC aussi, dans la loge. C'est toujours dans les loges que ça se passe, parce que je crois que c'est un endroit, une atmosphère très propice.
Alors, vous trouvez en effervescence.
Oui. D'ailleurs, la meilleure manière de composer, je trouve, c'est en ayant d'abord le poème. On a d'abord le poème, on lit très bien le poème et on s'inspire. Une musique vient toujours, une musique adéquate au poème qu'on vous donne.
Mais ne vous est-il pas venu l'idée d'écrire vous-même ces poèmes ?
Oui, mais je ne suis pas poète jusqu'à écrire la poésie.
Enfin, vous nous avez dit tout à l'heure que vous avez commencé par apprendre la batterie, oui. Ensuite vous vous êtes mis à la guitare, je suis persuadé qu'un jour ou l'autre vous deviendrez un très grand poète.
Non, jusqu'à présent je n'ai su faire que mes sketchs. Je m'en contentais, parce que dans la poésie, c'était un petit peu trop difficile pour moi.
Henri Salvador a donc signé très peu de paroles de chansons, quelques dizaines tout au plus, contre des centaines de compositions. Parmi les exceptions notables figure en 1962 « Le lion est mort ce soir », un traditionnel sud-africain qu'un éditeur américain lui a demandé d'adapter en français.
Oui.
Oh, wait.
a whim away, 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 a whim away.
Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Tous les hommes tranquilles s'endorment, le lion est mort ce soir. Oui, oh, oui, oui.
Puisque Salvador préfère presque exclusivement composer des mélodies au rythme varié, on a envie d'en savoir davantage sur ses paroliers. Eh bien, ils sont eux-mêmes assez divers. Il y a d'abord les auteurs réguliers pour les chansons populaires, comme Maurice Pont, Bernard Michel, Jean-André Jacques ou Maurice Thésée. Il y a ensuite les poètes pour les collaborations occasionnelles, comme Louis Amade, André Mauroy ou encore Françoise Dorin. Et il y a enfin la rencontre essentielle de la vie de Salvador en la personne de Boris Vian. Pour ce qui concerne les réguliers, les premiers sont donc Bernard Michel et Maurice Pont. Ils se connaissent déjà depuis la guerre et commencent leur collaboration avec Salvador en 1949. Considérés comme des paroliers historiques du chanteur, ils sont complémentaires. Bernard Michel signe des textes plutôt comiques, tandis que Maurice Pont se spécialise dans les chansons tendres. Avec ce dernier, Salvador signe dès 1949 un petit chef-d'œuvre qu'il conservera à son répertoire jusqu'à la fin. Il s'agit d'une chanson douce dont le titre exact est « Le loup, la biche et le chevalier ».
Une chanson douce que me chantait ma maman en suçant mon pouce. J'écoutais en m'endormant. Cette chanson douce, je veux la chanter pour toi. Car ta peau est douce comme la mousse des bois. La petite biche est aux abois, dans le bois se cache le loup. Mais le brave chevalier passa, il prit la biche dans ses bras. La petite biche, ce sera toi, si tu veux. Le loup on s'en fiche, contre lui nous serons deux. Une chanson douce que me chantait ma maman. Une chanson douce pour tous les petits enfants. Oh, le joli conte que voilà, la biche en femme se changea. Et dans les bras du beau chevalier, belle princesse, elle est restée à tout jamais. Bravo! La belle princesse avait des jolis cheveux. La même caresse se lit au fond de tes yeux. Cette chanson douce, je veux la chanter aussi. Pour toi, ô ma douce, jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à la fin de ma vie.
Cette version d'une chanson douce provient du magistral concert donné en 2004 au Palais des Congrès, où Henri Salvador, alors âgé de 86 ans, est accompagné par un orchestre de 50 musiciens. L'enregistrement original de cette chanson, qui semble venir du folklore, remonte en fait à 1950. Henri a alors 33 ans et commence à apprécier la poésie. Plusieurs disques gravés cette année-là en témoignent. Tout d'abord deux titres de Léo Ferré, qui à l'époque hantait les cabarets de la rive gauche et tentait de placer ses chansons auprès d'interprètes. Salvador adopte ainsi Saint-Germain-des-Prés, qu'il grave pour Polydor quelques mois avant le propre enregistrement de Léo chez Le Chant du Monde en juillet et qui ne se vendra guère. Tout comme la chanson du Scaphandrier, qu'Henri enregistre en novembre, cette fois un peu après Léo. À n'en pas douter, Salvador a ainsi contribué à faire connaître Ferré auprès du grand public.
Mets ton habit scaphandrier, descends dans les yeux de ma blonde. Que vois-tu, bon scaphandrier? Je vois un étrange attirail. Des oiseaux du corail et de l'or en fine paillette. Mets ton habit scaphandrier, descends dans le cœur de ma blonde. Que vois-tu, bon scaphandrier? Je vois une source très pure. Je vois des rires et des deuils. Une oasis près d'un écueil. Mets ton habit scaphandrier et dans le cerveau de ma blonde, tu vas descendre, que vois-tu? Il est descendu, descendu. Et dans les profondeurs du vide, le scaphandrier s'est perdu.
Toujours en 1950, se produit la rencontre un peu fortuite entre Henri Salvador et Boris Vian. Elle a lieu par l'intermédiaire de Jacques Dieval, pianiste de jazz et compositeur, qui accompagne régulièrement Salvador. Tous deux l'évoqueront en 1979 dans une émission de Noël Simsolo consacrée à Boris Vian sur France Culture.
Jacques Dieval avait fait une chanson avec Boris Vian et puis il m'a demandé si je voulais la chanter et Boris Vian voulait me connaître. Alors il m'a amené chez Boris Vian qui était à Saint-Germain-des-Prés. C'est comme ça que je l'ai connu d'ailleurs et depuis on ne s'est plus quitté. On est devenus des amis.
Et ces chansons, c'est la vie grise et c'est le bebop.
C'est ça.
J'avais demandé à Boris de faire les paroles parce que, comme il était musicien, comme il aimait le jazz, comme il avait le sens du swing, j'étais sûr au moins que j'aurais des paroles que l'on pourra chanter avec swing. Et il a tapé dans le mille, il m'a fait ça très vite, et c'était tout à fait ce qu'il fallait, étant donné que je le faisais pour Henri Salvador. Et il y avait un disque que l'on devait faire à l'époque pour Philips, que c'est chez Canetti qu'on avait enregistré ça. Et c'était le seul qui, à l'époque, pouvait vous faire vraiment des paroles qui swingaient sur une musique qui était faite pour swinguer.
Cette rencontre débouche donc sur l'enregistrement de deux titres composés par Jacques Dieval sur des textes de Boris Vian. D'abord au mois de mai 1950, c'est le bebop, déjà diffusé dans la précédente émission. Et en novembre, toujours de 1950, La vie grise, une chanson étonnante qui d'ailleurs sera interdite de diffusion par le comité d'écoute de la Radio Nationale pour apologie de l'alcoolisme.
J'ai du brouillard dans le citron.
Il a plu. Il est
de l'eau qui tombe dans les rues le long du ruisseau. Je suis sourd, j'ai rien dans la tête. Je suis mou comme je suis bête. Les pavés sont des fleurs jaunes, des rouges. J'en cueille un bouquet pour vous. La terre s'agite, je la sens qui bouge. Oh, ça y est, je m'envole. Lâchez tout. Je suis bien. Je suis couché dans le ciel. Oh, il y a des chiens et des poubelles. Les chiens puent, les poubelles me lèchent avec leur langue rêche dans les rues. Mon vieux, alors oh, bah, j'ai jamais été aussi rond. Allez, je m'en vais avant que le disque s'arrête. Au revoir, hein.
Cette rencontre de Salvador avec Boris Vian, placée sous les auspices de Jacques Dieval, n'est pour l'heure qu'anecdotique, et il faudra attendre quelques années pour qu'elle se concrétise par une solide amitié artistique. Entre-temps, Henri Salvador s'essaie à la mise en musique d'autres poètes. Cela commence en 1952 avec Louis Amade, préfet de Versailles et poète à ses heures perdues. La collaboration éphémère avec Salvador précède d'un an environ celle beaucoup plus durable que Louis Amade entretiendra avec Gilbert Bécaud pour produire d'importants succès des années 50 et 60. On se souvient des Croix, des Marchés de Provence, du Rideau Rouge, de Quand il est mort le poète, de L'importance et la rose et de bien d'autres. Le poème choisi par Salvador et qu'il a interprété avec sa guitare à la radio en mars 1952 pour l'émission Avant-première n'a pas connu la même fortune, mais il a tout de même été conservé dans les archives.
Mon grenier, oh mon vieux grenier, dans la maison de mes grands-parents, tu régnais sur les araignées. Et sur moi qui n'étais qu'un enfant, te souviens-tu des trésors très fabuleux et tes miens une heure ou deux? Mon grenier, oh mon vieux grenier, sur une guitare abandonnée, je jouais comme un insensé les airs les plus beaux du monde entier. Te souviens-tu? Ce fut toi, berçant mon cœur, qui connus mes premiers pleurs. Mon grenier, oh mon vieux grenier, vieux copain qui me vit malheureux, confident des premiers serments, quand je fus à 15 ans amoureux, te souviens-tu? Maintenant, lorsque j'ai mal, je te vois comme en un bal. La la.
la 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 la.
Merci, mon vieux grenier.
Après Louis Amade, Henri Salvador s'entiche d'un poème d'André Mauroy qui figure dans son premier roman publié en 1918, Les silences du colonel Bramble. Sa mise en musique a l'heure de plaire à l'académicien qui confie au chanteur un autre texte, Les oiseaux et les rêves. Tous deux seront réunis sur un disque 78 tours gravé en juillet 1953 qui aura pourtant peu de succès. Alors, pour le sortir de l'oubli, voici le premier poème, La mort passe, celui qui a décidé de la suite.
La mort passe, le destin chante, vite oublie-moi. Tes robes noires sont charmantes, mais laisse-moi. Garde-toi de venir en pleurs m'offrir des roses. Au vivant, réserve tes fleurs et toutes choses. Ne me plains pas, je dormirai sans barcarolle. Et de mon corps, je nourrirai les herbes folles. Mais si par quelque soir d'automne ou de brouillard, pour ton visage de madone, tu veux le phare de cet air de mélancolie que j'aimais tant alors. Oublie que tu m'oublies pour un instant.
André Mauroy, est-ce que vous ne trouvez pas surprenant de voir ainsi un de vos poèmes chanté ?
À la vérité, je ne trouve pas ça surprenant du tout. Il est vrai que quand j'avais écrit ce poème, il n'était pas en principe destiné à être chanté. C'est un poème qui se trouve au début des silences du colonel Bramble et qui correspondait à des sentiments extrêmement forts que j'éprouvais à ce moment-là, étant avec l'armée anglaise, pensant aux gens que j'avais laissés derrière moi. Mais en fait, ça a été écrit sous l'influence d'impressions musicales, car il y avait une espèce de musique du front, le bruit de la mitrailleuse, du canon, toutes ces choses faisaient une espèce de basse sur laquelle j'entendais monter une chanson. Et au fond, tous les poèmes ont été composés à l'origine pour être des chansons. Les grands poètes du XVIe siècle, que ce soit les gens de la Pléiade chez nous ou Shakespeare et les poètes élisabéthains, étaient des gens qui avaient toujours en main leur viol ou leur guitare et qui accompagnaient leurs poèmes. Et également, les poèmes grecs étaient certainement des poèmes qui étaient composés pour être mis en musique. Par conséquent, le lien entre la chanson et le poème, entre la poésie et la musique, est le lien primordial. C'est plutôt quand la poésie s'est séparée de la musique qu'il y avait lieu d'être surpris. Mais quand elles se rejoignent, Non seulement il n'y a pas lieu de s'étonner, mais on a le sentiment de retomber à ce qui a été la nature même. Et d'ailleurs, en notre temps, c'est bien ce qui se passe. Nous voyons aujourd'hui que les chansonniers, au lieu de se faire des poèmes plus ou moins stupides par des gens qui n'ont jamais été des poètes, vont à de véritables poètes. On va à Queneau, on va à Prévert, et on en tire des chansons. Et on est arrivé ainsi à ramener à la chanson le public qui était son public normal, autant de Shakespeare ou de Ronsard.
Quelque peu sentencieux, André Mauroy livrait en mars 1955 ses impressions sur la mise en musique des poèmes dans l'émission « Tout peut recommencer ». Mais entre-temps, Henri a déjà fait d'autres rencontres, comme celle d'un jeune auteur débarqué d'Alexandrie et encore inconnu, qui se fait appeler Joe Moustaki. Fin 1955, Salvador met en musique une chanson mélancolique signée par ce dernier, « Il n'y a plus d'amande ».
Il n'y a plus d'amande, les écureuils ont tout mangé, et les oiseaux ont ravagé les vignes qui s'étendent jusqu'au prochain verger. Le foin sent la lavande, ta gorge chaude l'oranger. Mes lèvres vont se mélanger à tes lèvres gourmandes, rien ne viendra nous déranger. Le vieux moulin à vent ne battra plus les ailes, le seau rouillé sur la margelle ne grincera plus comme avant, les écureuils au coin du feu s'endorment. Viens, faisant comme eux. Je te fais une guirlande de fleurs des champs, de fleurs des prés. Et nous deux corps sont bien trop près, et notre faim trop grande. Ne nous faisons plus désirer. Il n'y a plus d'amande, les écureuils ont tout mangé. Mais j'en aurai en contrebande pour t'y faire goûter sans attendre l'été.
Escapade, Martin Penet, France Musique.
En 1955, Boris Vian renonce à la littérature, qui ne lui a valu de son vivant qu'une reconnaissance bien limitée, pour se jeter à corps perdu dans la chanson. Soutenu par le directeur artistique Jacques Canetti, sa tentative de carrière de chanteur durant plusieurs mois au cabaret des Trois Baudets n'est guère concluante, car il est paralysé par le trac et ne sait même pas se tenir en scène. Il en restera tout de même une huitaine de titres enregistrés sur deux disques 45 tours intitulés respectivement « Chansons possibles » et « Chansons impossibles ». Sur des musiques signées Jimmy Walter ou Alain Goraguer, elles deviendront par la suite des classiques comme « Je suis snob »,« Je bois »,« La complainte du progrès » ou « La java des bombes atomiques ». La musique demeure néanmoins l'activité principale de Boris Vian jusqu'à la fin de sa trop courte vie. Comme directeur artistique chez Philips, puis chez Fontana, et surtout comme auteur de chansons par centaines. C'est à ce moment-là que se produisent les retrouvailles avec Henri Salvador et que les deux compères deviennent inséparables. Comme ce dernier l'évoquera en 1979 au micro de Noël Simsolo sur France Culture.
Vous savez, en fin de compte, Vian écrivait des textes pour moi parce qu'il pouvait... Je représentais ce qu'il aurait voulu faire sur scène. Alors c'est pour ça que... Il était passionné, nous étions tous les deux passionnés de jazz, et il écrivait pour moi comme si c'était pour lui, quoi. Il savait que j'allais peut-être, enfin j'espère, dire exactement ses textes comme il l'aurait souhaité, quoi.
Mais une chanson, par exemple, comme Trompette d'occasion, c'est complètement une chanson où Vian parle de lui à la première personne.
C'est ça. C'est ça. Et puis alors, en même temps, il a mélangé les deux, parce que il se voyait, pour ainsi dire, en Salvador, mais c'est Salvador qui jouait la trompette comme Vian, vous voyez. C'était une chanson sur mesure, quoi.
Moi-même, nous avons écrit une chanson, nous avons intitulée « Trompette d'occasion ». J'en profite pour vous dire que le trompettiste est aussi d'occasion, puisque c'est moi-même. Alors, pour faire plus moderne, je vais vous l'annoncer en italien. Moi, pourquoi d'ailleurs ? E con la tromba d'occasione. Oh, dimanche matin,
Je vais à Saint-Ouen, marcher au bus, battait déjà son plein. Je déniche une trompette dans un coin, et soudain, immédiatement, je me vois semblant sur une estrade avec des gens devant. On m'admire, on me trouve épatant, on entend. Fasciné par mon rêve, je me fouille et je prends un peu d'argent. Je le donne au marchand, très content, qui me tend l'instrument. Voilà monsieur, ça vous plaît? Bah, je sais pas en jouer. Tout excité, je suis rentré et sans tarder me suis mis à souffler. Mais voilà ce que ça a donné quand j'ai joué. Tintin. Le lendemain, tous les copains ont décidé de venir à Saint-Ouen acheter un instrument chacun pour faire. On a bossé sans se ménager, on a fini par arriver à jouer. Et maintenant quand on se met à souffler, cela fait pata, pata. Dans un gentil petit bar à deux pas du boulevard, on joue le soir et tous les étudiants s'arrêtent en entendant l'instrument. On dirait Armstrong, dis donc. C'est la bonne vie, plus de soucis. Garçons et filles se croient au paradis, bébé. Quand les breaks s'envolent à l'envie, yo, vas-y!
Quand on faisait les chansons, il chantait. Alors je l'accompagnais. Mais c'était justement. Nos compositions, c'était un match de vitesse. J'ai toujours eu la manie de doubler, de faire des personnages. Alors, comme il l'écrivait sur mesure, pour moi, ça venait comme ça. Enfin. Nous faisions des chansons en nous amusant. Et justement, il faut le prendre de ce côté-là. Il ne faut pas penser à des choses sérieuses. Parce que c'était un monsieur qui savait aussi être sérieux. Je suppose que vous connaissez sa littérature. Et quand il voulait prendre sa plume et écrire sérieusement. Mais avec moi, c'était surtout le côté... parce que je représentais la joie pour lui. Et c'était les canulars, c'était les blagues. Et le jazz surtout, alors les choses rythmées, et c'était ça notre collaboration. Évidemment, c'était toujours en un sens les conversations, parce que c'était moi qui posais les questions et c'est lui qui me répondait, parce qu'il avait un cerveau énorme, il savait tout. Et comme j'étais un passionné de science et de fiction, c'est avec lui que j'ai connu Van Vogt, enfin tous les gens qu'il traduisait, quoi. Et lui, il écrivait les histoires et. Après, on s'arrangeait, j'adaptais la musique sur ses paroles, lui adaptait ses paroles sur ma musique, quoi. Il y avait une ambiance formidable. Parce que, en plus, comme à force de se connaître, on n'avait presque pas besoin de se parler, parce qu'on comprenait, on se comprenait en se regardant, quoi. Mais pour moi, ça me fait tout drôle de parler au passé, parce qu'il n'est jamais mort, pour moi. Il est toujours là, quoi.
L'association fructueuse entre Boris Vian et Henri Salvador donne le jour à un grand nombre de chansons, parfois nostalgiques ou sentimentales, mais le plus souvent comiques, voire carrément loufoques. Elles sont composées sur des rythmes les plus variés, de la valse au charleston, du calypso à la java, de la biguine au blues. Après les quatre fameux rock'n'roll enregistrés en 1956 sous le nom de Henry Cording, Salvador signe l'année suivante avec Boris quatre Calypso et font ainsi connaître au grand public ce nouveau rythme des Antilles.
Eh ben, vous savez, comme je suis très porté sur la gueule, voici une histoire de cuisine. Elle habite une petite cabane, bien cachée sous les grands palmiers. Ses deux filles cueillent des bananes, pendant qu'elle cuit le dîner. Elle est si bonne cuisinière, que les gars viennent de très loin. Et regardent dans sa soupière, en chantant ce refrain. Oupla.
Hey mama, comme ça sent bon chez toi. Hey mama, qu'est-ce que tu fais cuire par là?
Qui t'a vendu ton tour de taille, il ne t'a pas volé à sa nom alors. Vive la bonne boostify que maman m'a donnée. Hop là, c'est chaud ça mon vieux. Elle a des amis innombrables et les gaves de plats exquis. Ils roulent très souvent sous la table et se retrouvent dans son lit. Mais on n'y soit qui mal y pense, car maman fait ça uniquement pour pouvoir leur garnir l'avance de chocolat fumant. Wopla!
Et maman, comme ça sent bon chez toi.
Ça c'est vrai mon vieux.
Et maman, qu'est-ce que tu fais chauffer là?
Ton corsage a un tel volume, on en est étonné. Mais on dort comme dans la plume, le nez dans tes nénés.
S'ils passent des après-midi entières à écrire des chansons qui relèvent pour eux plus de l'amusement que du travail, les deux amis en connaissent un rayon sur la recette du succès. Chose que Boris Vian a d'ailleurs tenté d'analyser dans son petit livre « En avant les zizik et par ici les gros sous ». Boris et Henri ont même signé en 1958 une chanson mode d'emploi intitulée « Le tube ».
V'là les accessoires pour faire un succès. Une rue, un trottoir, une môme bien roulée. Un gars, chandail noir et cheveux collés. Rengaine qui traîne, ni triste ni gaie. Voilà les accessoires, messieurs dames, entrez. La fille et le gars se sont rencontrés. Entre deux, il y a soudain quelque chose qui survient dans la nuit, les voilà partis. V'là les accessoires d'une histoire d'amour. Un bar, un comptoir, du pinard bien lourd. Le gars a regardé la fille dans les yeux. Cocotte, tu me bottes, on va vivre à deux. Elle a dit, mon chéri, je ferai ce que tu veux. La nuit les a pris, c'était merveilleux. Mais demain c'est fini, y'a plus rien que la vie. Faut de l'argent pour payer l'amant. Une rue, un trottoir, une môme fatiguée. Monsieur qui passait, voulez-vous monter?
Je ne peux pas citer ici toutes les chansons signées Vian et Salvador, le compte exact en est d'ailleurs impossible car il y a beaucoup d'inédits. Néanmoins, les titres reviennent facilement en mémoire. La Java mondaine, Je ne peux pas travailler, Le gars de Rochechouart, Le fêtard, Moi je préfère la marche à pied, Une bonne paire de claques, et etc., etc. Mais je ne peux pas résister au plaisir de vous faire entendre une version rare d'un tube inusable enregistré lors d'un gala des îles organisé à la mairie du 15e arrondissement de Paris où Salvador est accompagné par l'orchestre du Lido.
Eh bien voici une parodie du blues américain que j'ai fait avec mon ami Boris Vian. Je m'excuse, hein, j'aime bien vous voir, mais avec ça je vous vois pas. Une parodie du blues américain que j'ai fait avec mon ami Boris Vian, nous avons intitulé « Blues du dentiste ». Je vous le balance.
Ce matin-là, en me levant, j'avais bien mal aux dents. Oh là là. Je sors de chez moi et je fonce en pleurant chez un nommé Durand. Qui est dentiste de son état et qui pourra. pourra m'arranger ça. Où la salle d'attente est bourrée de gens, et pendant que j'attends, sur un brancard passe un mec tout blanc, porté par deux masters. Je me lève déjà pour foutre le camp, mais l'infirmier crie « Oh, suivant !» Debout devant le dentiste, je lui fais un sourire de crétin. Il me pousse dans le fauteuil et crie « En piste !» Il a des tenailles à la main. Oh, 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 maman, je l'équipole en fromage blanc. Avant même que j'aie pu faire où, il fait déjà sauter trois dents. Oh, je te jure, là. En moins d'une plombe, mes pauvres mollets sont retournés dans leur tombe. Voilà qui me plombe mes deux plus belles dents, celles que j'ai par devant. Oh, oh, oh. Il me grille la gueule au chalumeau et il me file un grand verre d'eau. Oh oh. Il me dit il faut régler votre dette, je venais d'être payé la veille. Ce salaud me fauche toute mon oseille et me refile 50 ballettes. Oh maman. Et il ajoute en rigolant, je suis pas dentiste, je suis plombier. Entre voisins, faut s'entraîner. Ha ha ha, après je me suis embarqué. Et moi je gueule ce soir le blues du dentiste dans le noir. Bah faut plus m'en parler plus tard.
C'était donc le célèbre blues du dentiste capté en avril 1959 lors d'un gala donné à la mairie du 15e arrondissement de Paris, une archive belle et rare. Après la disparition brutale 2 mois plus tard de Boris Vian, Henri Salvador se retrouve comme un orphelin et ne cessera de dire par la suite qu'il a perdu un frère. Il lui reste néanmoins un bon lot de chansons inédites, c'est le cas de « Faut rigoler », sous-titré « Tcha-tcha gaulois » qu'il enregistre finalement en 1960.
Les Gaulois, cheveux blonds et tête de bois, longue moustache et gros dada, ne connaissaient que ce refrain-là. Nos ancêtres, les Gaulois, habitaient des huttes en bois, et les druides, trois par trois, sous le gui chantaient à pleine voix.
Astérix, vous en êtes un peu à l'origine du personnage d'Astérix et de l'engouement pour les Gaulois.
Oui, oui, c'est ça, parce que c'est une chanson que j'avais faite avec Boris Vian, qui s'appelait « Faut rigoler, nos ancêtres les Gaulois ». Et un jour, il y a deux types qui étaient dans une cuisine, qui cherchaient une idée. Il y avait Radio Luxembourg qui faisait tourner. Puis alors, quand ils ont entendu ma chanson, ils ont dit « Ben voilà, nos ancêtres les Gaulois, faut trouver un personnage ». Et ils ont fini par trouver Astérix. C'est un coup de chance, j'ai un vénère, en fin de compte.
En 2006, au soir de son existence, Salvador livrait à Serge Levaillant, qui animait les Nuits de France Inter, cette confidence des plus instructives sur notre patrimoine populaire. Jusqu'au bout, le souvenir de Boris aura donc hanté la mémoire d'Henri, qui expliquait en 1970 à Jacques Chancel de quelle manière il souhaitait rendre hommage à son ami.
Ah, Boris, ça a été une bonne époque de votre vie.
Ah oui, c'est un frère, quoi. C'était pas un ami, c'était un frère, quoi. Boris Vian, c'est...
On le reconnaît un peu tard, je trouve.
Mais c'est toujours pareil, quoi.
Salvador a été reconnu plus tôt.
Qui vous dit qu'il a été reconnu? Enfin, vous pas charrier, quoi. Bon, enfin, Boris Vian, c'est ce qui est merveilleux, ce qui m'a laissé un héritage auquel je m'attendais pas, quoi. C'est-à-dire que quand il a disparu et qu'il est devenu Boris Vian, il a été d'ailleurs découvert par la jeunesse, c'est ça qui me fait plaisir, et automatiquement, j'ai hérité de cette jeunesse qui aimait Boris Vian et qui savait que Boris Vian était un ami d'Henri Salvador, et ils m'ont aimé à travers Boris Vian, et ça me fait plaisir, quoi.
Vous aviez écrit beaucoup de choses ensemble ?
On a écrit tellement de chansons. D'ailleurs, j'ai à la maison, pour le prochain anniversaire de sa mort, je vais sortir un 33 tours avec des chansons inédites que j'avais fait avec lui. Et je voulais vous dire que, justement, ce 33 tours que je vais faire sur Boris Vian, on se demande pourquoi j'ai mis tellement de temps. C'est parce que j'aimais tellement Boris que je n'ai pas voulu...
En profiter,
parce que c'est un type tellement merveilleux. Je ne voulais pas profiter de sa mort encore pour... Comme tous ces gens qui se sont jetés sur lui, qui pendant toute son existence l'ont complètement ignoré, et je les connais tous. Et puis, sitôt qu'il est mort, j'ai reçu des coups de téléphone. Vous n'auriez pas des textes de Boris? J'aimerais bien. Je dis, mais pas du tout, j'ai rien. Et maintenant, ce sera un hommage à notre amitié, quoi.
C'est joli.
Ouais, c'était mon pote, quoi.
Ce projet de disque a bien vu le jour en 1979 pour célébrer l'anniversaire de la disparition de Boris Vian sous la forme d'un 33 tours. En voici un extrait, « Quand le compositeur », chanson plutôt mélancolique d'un style inhabituel chez Vian.
Quand le compositeur entend la mélodie où il a mis son cœur et son âme. Quand il l'entend chanter dans un café brumeux par une pauvre fille en robe sale. Compositeur, regarde les clients qui lancent des clameurs et des rires. Alors il revoit celle pour qui il écrivait.
En définitive, Henri Salvador a eu de la chance avec ses paroliers, que ce soit pour les succès populaires ou pour les poèmes dont certains sont de petits bijoux. En 1989, à l'occasion de la sortie d'un nouvel album, le chanteur était l'invité de Jean-Louis Foulquier sur France Inter dans l'émission Pollen et faisait le bilan de ses collaborations.
Quand on a collaboré pendant 8 ans avec un personnage aussi important que Boris Vian, c'est pas toujours facile de retrouver des paroliers, des auteurs.
Eh bien, j'ai eu la chance d'en rencontrer beaucoup parce que il y a dans ce disque un ami à moi qui a fait, même avant Boris Vian, presque tous mes succès. Il s'appelle Bernard Michel. Seulement, je crois que le défaut qu'il a, c'est de ne pas avoir un nom. Il a 2 prénoms et personne ne fait attention à son nom. Il s'appelle Bernard Michel et pourtant il a écrit tous mes tubes, tous mes gros succès, c'était lui. Et puis alors j'ai rencontré Boris Vian,
Bernard
Dimet et encore beaucoup d'autres.
Vous êtes sévère
Je suis très. Je suis, pour ainsi dire, le mauvais professionnel, c'est-à-dire le méchant. C'est-à-dire que même Boris Vian, qui n'était pas un finisseur, hein, c'était un type qui avait... Ça lui jaillissait, mais il finissait jamais. Je lui disais, non, il faut une chute, je me battais avec lui pour qu'il trouve une chute. Il la trouvait, parce que c'était vraiment un genre de génie dans ce genre. Mais il écrivait sa chanson, puis ça y est, regarde, c'est bon. Je dis, oui, mais il n'y a pas la chute. Et c'est moi qui forçais Boris à trouver des chutes. Et Bernard Dumay avait le même défaut aussi. Ce sont Bernard Dumay, alors il pouvait... Et un jour, il est venu à la maison, et on en a écrit 10 chansons. Et c'est amusant parce que il avait vidé mon frigidaire, il avait vidé ma cave, il buvait comme un trou. Hein. Et puis à un moment, j'avais toujours le magnétophone qui tournait, et il me dit, on va faire une chanson avec les plus jolis mots, des jolis mots. Allez, joue. Alors moi, je me mets à jouer. Et il a écrit Syracuse comme ça. Ouais. Et moi, j'ai commencé. Oh, voilà, ça y est. Sans une égratignure. Hein. C'est des phénomènes, quoi. Je crois que ça va être très difficile pour moi d'en retrouver d'autres.
S'il n'avait pas vidé votre frigidaire et votre cave successivement, peut-être que Syracuse ne serait jamais sorti de l'imagination de Bernard
Dumay. Non, je ne sais pas. Je ne pense pas que. Mais c'était un type qui écrivait aussi bien. Ou sous ou pas sous, il écrivait aussi bien. Vous savez, ça jaillissait, quoi. D'ailleurs, vous savez qu'il allait à Montmartre. Et ça devait être un peu dur. Vous savez qu'il est mort de notre époque parce que c'était un incompris. Parce qu'il allait chez un éditeur et il disait, voilà, j'ai écrit ce poème. Et le type disait, mais ça va pas vendre. Il ne comprenait pas ça. La poésie était belle, il ne comprenait pas qu'on parle d'argent. Vous comprenez? Et il est mort de ça. D'ailleurs, j'ai une tonne encore de textes de lui que m'a confié sa compagne, où il y a des choses merveilleuses, mais on sent qu'il râlait toujours contre le fric. Moi, j'ai pas de Cadillac, moi, j'ai pas... Et ce type écrivait des choses merveilleuses.
Et il disait merveilleusement bien.
Il disait merveilleux, parce qu'il allait, justement, je disais, dans les petits cafés de Montmartre.
Tire-bouchon.
Voilà. Mmh. Et puis... il déclamait. Alors, évidemment, il y a des gens qui aimaient, mais il y a d'autres qui buvaient, qui faisaient pas attention. Il y avait là un génie. C'est ça qui est triste. En France, il faut mourir pour qu'on soit considéré.
J'aimerais tant voir Syracuse, l'île de Pâques et Kérouan. Et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent. Voir les jardins de Babylone et le palais du grand lama. Rêver des amants de Vérone au sommet du Fusiyama. Voir le pays du matin calme, aller pêcher au cormoran et m'enivrer de vin de palme en écoutant chanter le vent avant que ma jeunesse s'use et que mes printemps soient partis. J'aimerais t'en voir Syracuse pour m'en souvenir à Paris.
Une magnifique version inédite de Syracuse, enregistrée en décembre 1962 pour l'émission Les Cadeaux Insolites, sur un texte de Bernard Dimet, bien sûr, par Henri Salvador et sa guitare. Dans la prochaine émission, nous aborderons Salvador le rigolo et Salvador le tendre. Je remercie à la technique Jean-Michel Bernaud et à la réalisation Christine Amado, pour les archives de l'INA, Catherine Louboutin et Anne Lorveille. Et je vous souhaite à tous une très bonne semaine à l'écoute de France Musique.
Dans mon jardin d'hiver.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.